Je ne sais quelle impulsion pousse les hommes à traîner dans la boue les plus belles choses, à rendre vulgaires les plus beaux sentiments. Il y a peu de mots dans notre vocabulaire qui ont été aussi galvaudés, aussi salis, aussi mutilés que le mot « amour ». Notre littérature en est remplie, mais elle ne le réduit souvent qu'aux sentiments qui attirent les uns vers les autres les représentants des deux sexes, de sorte que Champfort a pu écrire dans ses maximes et pensées que l'amour tel qu'il existe dans la société n'est que l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Généralement, on entend par le verbe « aimer » le fait d'avoir de l'affection, de l'attachement, du penchant ou du goût pour quelqu'un ou quelque chose. Ainsi, on aime un objet, on aime sa mère, on aime la musique. C'est un sentiment que nous avons tous ressenti, souvent spontanément, voire instinctivement. Mais ce ne sont là que quelques aspects, quelques facettes de l'amour tel qu'il est conçu par le christianisme. Comme par exemple, dans ce sublime précepte du Christ, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Malheureusement, dans la plupart des traductions de la Bible, le mot « amour » est rendu par « charité », ce qui est une traduction du latin « caritas ». Cela est regrettable car, dans son acceptation moderne, le mot « charité » suggère ce mouvement de compassion ou de pitié qui pousse l'homme à secourir un prochain nécessiteux. D'où cette haïssable expression « faire la charité ». En fait, le latin « caritas » n'avait pas le sens dont nous affublons habituellement notre charité. Il désignait un sentiment, une disposition intérieure qui est mieux rendue aujourd'hui par le mot « amour ». Cicéron, par exemple, parle de la caritas qui existe entre les parents et les enfants. Nous ne songerions pas aujourd'hui à expliquer ce sentiment par le mot « charité ». Voyons de plus près quelles sont les implications de l'amour, telles que le concevaient le Christ et ses apôtres. Il y a de toute évidence dans ce mot, dans ce sentiment, une importance capitale. Jacques l'appelle « la loi royale ». L'apôtre Jean déclare « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Et l'apôtre Paul « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quelle est donc la nature de cette loi royale? Qu'est-ce qui est exigé de nous? Que nous manque-t-il? Un examen même sommaire des Écritures nous montre que nous avons encore beaucoup à apprendre sur l'amour, que nous aimons mal, que nous ne sommes encore tout juste capables d'aimer que ce qui est aimable, et c'est là une forme d'égoïsme, et qu'en fait, nous méprenons souvent pour de l'amour ce qui n'est que sentimentalisme, simple penchant ou passion passagère. Si vous aimez ceux qui vous aiment, nous demande Jésus avec une logique désarmante, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Lacordaire disait, l'humilité ne consiste pas à se croire pire ou plus médiocre qu'on est, mais à connaître clairement tout ce qui nous manque. Eh bien, la parole de Dieu, la parole d'un Père, est là pour nous dire ce qui nous manque encore. Ayons l'humilité de reconnaître que sur le plan de l'amour, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Et ayons la sagesse de comprendre que Dieu ne nous indique pas un sommet inaccessible, mais un moyen, le seul, de nous libérer de la tyrannie de notre nature charnelle, toute pétrie de passions, vulnérable à toutes sortes d'impulsions, de réactions et de tiraillements déréglés. Nous comprenons à ce point qu'il est difficile de répondre à la question « qu'est-ce que l'amour ?» par une simple définition. D'autant plus qu'une définition ne nous aiderait pas énormément. C'est pourquoi l'apôtre Paul répond à cette question en nous donnant une énumération des différentes propriétés de l'amour, telles qu'il se manifeste dans la vie pratique. Dans le célèbre texte, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, considéré comme un joyau dans toute la littérature, il fait comme miroiter devant nous les différentes facettes de cette richesse. si je savais parler toutes les langues des hommes, dit-il, et même celles des anges. Mais que je n'ai pas l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des prédicateurs, connaître tous les secrets du plan de Dieu et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes, sans amour je ne suis rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Voilà en quelques traits énergiques brosser le caractère indispensable de l'amour. Si ce que je fais fût une action éclatante, n'est pas inspiré par l'amour, mon action est comme un enfant mort-né. Celui qui aime est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Ça, c'est le côté passif de l'amour. Il est longanime. L'injure et la provocation ne le blessent pas à mort. Il attend et souffre en silence, car s'il doit subir la méchanceté des hommes à cause de leur infirmité et de leurs imperfections, il s'accroche à l'amour de Dieu et fait confiance à sa providence. Celui qui aime est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Ça, c'est le côté actif de l'amour, car il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. Il se souvient de cette parole divine, véritable clé de la vie. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». C'est une main tendue pour aider, pour soutenir, pour guérir. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. L'amour qui se porte vers les autres est discret. Il visite la souffrance sur la pointe des pieds et pose une main délicate sur les plaies. Il pleure avec ceux qui pleurent et se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes malhonnêtes. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son intérêt, insister sur ses droits. L'amour s'inquiète d'abord des intérêts de l'autre. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance ». « À moi la rétribution, dit le Seigneur, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi et à trouver le chemin de la repentance. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal, mais au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Ce n'est pas aimer que de se délecter des erreurs commises par les autres ou de leurs défauts. L'amour recherche le meilleur en chacun. Il ne partage pas les sentiments du cynique et du pessimiste. Il a la médisance en horreur et son oreille n'entend pas la calomnie. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et excuse. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout supporter. Dans l'Épître aux Galates, il est écrit « Mes frères, s'il arrivait à quelqu'un par mégarde de faire un faux pas, si cédant à une impulsion soudaine il tombait dans quelque faute et que vous veniez à le découvrir, agissez à son égard en homme spirituel. Sous la conduite de l'Esprit, ramenez-le avec affection et douceur dans le droit chemin, en évitant tout sentiment de supériorité. » Et soyez vous-même sur vos gardes, de crainte d'être aussi induit en tentation. Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux, supportez les fautes et les faiblesses des autres. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. N'a-t-il pas lui-même porté nos fautes et nos faiblesses à la croix? Il se peut, mes chers amis, que nous nous disions à ce point, quelle tâche difficile pour nous qui ne sommes que des vases de terre remplis jusqu'au bord d'amour de nous-mêmes. Nous qui savons à peine aimer convenablement nos frères, et qui savons si bien haïr nos ennemis. En effet, rien de plus contraire à notre nature que d'aimer ceux qui nous veulent et qui nous font du mal. Nos réactions ont trop souvent pour nom colère, révolte, rancune et vengeance. Dieu a préparé les hommes. Il les a entraînés en vue de ce but parfait qu'est l'amour. Le commandement œil pour œil et dent pour dent constituait déjà un progrès, car déjà il exigeait la maîtrise de soi. Il fallait étouffer sa colère et modérer sa vengeance. Puis vint l'amour du prochain, qui, chez les Israélites, se limitait aux compatriotes. Fausse notion que Jésus corrigea en répondant à la question « Qui est mon prochain ?» par la parabole du bon samaritain. Dieu n'exige pas de nous ce même amour-affection que nous ressentons envers une mère ou nos enfants. Il sait qu'aimer nos ennemis de cette manière est au-delà de nos possibilités. Il veut surtout nous aider à entrevoir l'âme et non pas l'être physique. Comme le dit un théologien, le chrétien voit désormais les hommes non pas tels qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs tares, leurs péchés, mais tels que Dieu les aime. Il découvre en chacun d'eux une intention, une espérance de Dieu. Aussi se sent-il poussé irrésistiblement à les aimer à son tour, à les aimer pour l'amour de Dieu, à aimer Dieu présent en eux. Aimer le pécheur, ce n'est pas aimer ses péchés, c'est souhaiter ardemment le salut de son âme. Le monde a soif d'amour. Tous les êtres humains ont besoin d'aimer et d'être aimés. C'est essentiel à leur vie. Ce qui déséquilibre et détruit les hommes, c'est l'égoïsme, c'est-à-dire l'amour de soi, l'orgueil son frère aîné, et la haine, leur sœur maudite. Plus que de notre savoir, plus que de notre richesse, de nos talents, de notre travail, le monde a besoin de notre amour. Puissions-nous mobiliser toutes nos énergies pour nous mettre à l'école du Christ et apprendre à aimer comme il a aimé. C'est ainsi seulement que nous pouvons pleinement participer à l'œuvre de Dieu parmi les hommes et accomplir notre vie.